Bonjour à tous et ça va mieux, c'est Jacques Lavergne. Nous sommes dans des conditions d'enregistrement un peu particulières puisque pour respecter le confinement, nous sommes chacun chez nous, mais on va essayer quand même de procéder aux commentaires de l'actualité comme nous le faisons à l'accoutumée. Alors bien sûr, je suis seul chez moi, mais sur l'audio, nous avons Léonore Victoria, que je ne présente plus, franco-colombienne, spécialiste d'études politiques et chef de projet. Jean-François Mignard, qui est de la Ligue des droits de l'homme, qui n'est plus le secrétaire national, mais qui est très actif à la Ligue des droits de l'homme. Et Pierre Larouille, économiste et essayiste, qui lui est dans sa montagne, ce qui nous occasionne quelques difficultés de transmission. Donc nous avons essayer de mêler plusieurs moyens techniques pour parvenir à l'entendre et faire aussi qu'ils nous entendent. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue Bonjour. À tous sur Esprit Occitanie, bien sûr. Alors aujourd'hui, le sommaire, bien, ça ne va pas vous étonner, nous allons parler de la France et du Covid, nous allons parler des attentats islamiques, des élections américaines et bien sûr, nous aurons nos rubriques habituelles, les brèves, le Ça va mieux, et le Conseil culturel. Voilà, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, ce n'est pas en présentiel, et donc veuillez nous excuser peut-être pour quelques qualités du son un peu défaillantes. Alors, commençons donc par la France et le Covid. La situation actuelle de notre pays a des répercussions économiques, sociales, psychologiques extrêmement importantes et qui amènent à se poser la question de savoir si le président et le gouvernement savent où ils vont, et surtout, s'il maîtrise véritablement la situation. L'exécutif est tiraillé entre le désir compréhensible de sauver l'économie et celui de prolonger la santé de protéger la santé des Français. Sans oublier le manifeste désir du président Macron de justifier son action ou de se dédouaner commodément des erreurs commises depuis plusieurs mois, on en a eu le sentiment lors de sa dernière intervention télévisée. Les Français ont dû se reconfiner, un confinement plus léger que le premier, dans l'espoir que l'économie sera moins pénalisée qu'au printemps. Un reconfinement sélectif qui touche certains et pas d'autres, le tout arbitré par des critères dont la logique et la cohérence ne sautent pas immédiatement aux yeux. Certains se voient autorisés à travailler, d'autres, à leur grand désespoir, sont contraints de rester chez eux et de fermer boutique. Cette fois-ci, les enfants ont pu rejoindre les classes alors que les universités demeurent closes, les cours se déroulant en visioconférence, comme nous sommes d'ailleurs en train de le faire aujourd'hui. L'épidémie continue de se répandre à grande vitesse et avec virulence. Comment en est-on arrivé à ce désastre sanitaire qui fait que plus de 3500 lits d'hôpitaux sont mobilisés à ce jour pour des réanimations Covid, alors que la capacité théorique n'est que de 5800 ? Avec une pointe réelle des capacités prouvées à 7000 lits le 10 avril, l'Institut Pasteur nous dit maintenant que le nombre de cas en réanimation pourrait approcher les 9000 lits mi-novembre. Nous risquons donc d'assister à un désastre sanitaire car la décrue des hospitalisations, vous en doutez, sera lente. Bref, la situation sanitaire est extrêmement dégradée, la situation économique préoccupante au plus haut point. La situation sociale catastrophique, les Français les plus pauvres sont plus impactés que les autres par le Covid, la consommation de psychotropes est en hausse, la confiance envers les pouvoirs publics est mesurée, et vous le comprenez, c'est là un euphémisme. Où allons-nous à ce train-là? Eh bien, c'est la question que je vous pose, madame, messieurs, qui commence peut-être Jean-François Mignard?
Je veux bien essayer de démarrer à chaud, parce que pour le coup, nous sommes dans l'actualité, tant dans le fond que sur la forme, au niveau de notre propre communication. Voilà. Je souhaite délibérément être discret sur des considérants concernant l'épidémie, tellement je suis fatigué, je dois dire, de positions qui sont des positions tranchées de gens qui se légitiment de je ne sais pas trop d'où pour avoir des idées définitives sur cette question-là. On nous refait le coup sur le deuxième confinement, de la première période dans laquelle, en gros, alors on a moins de professeurs de médecine et de chercheurs marseillais, mais on a toujours autant de gens qui font circuler de l'info, qui est de l'info à tout niveau. Autrement dit, pour le citoyen de base, et j'en suis un modestement, c'est très compliqué de s'y retrouver. Voilà. Donc, là-dessus, je pense, même si l'indéfini comme ça, il est toujours un peu suspect, on est quand même sacrément baladé par rapport à ce qui se passe, tant on est dans l'inconnu. Voilà. Je persiste à penser. Alors, il y a peut-être un léger biais de ce point de vue-là. Je persiste à penser que le pouvoir qui se sangle dans son autorité, dans sa légitimité politique faible, au passage d'ailleurs, on le paie peut-être aussi, on a un président de la République, encore une fois, qui a une assise électorale relativement faible, mais qui se sangle dans sa légitimité républicaine pour nous imposer un certain nombre de choses. Voilà. On voit que ils s'y prennent un petit peu autrement, pour le dire comme ça, parce que ça se passe moins bien, parce que la trouille est moins présente, parce que le ras-le-bol est un peu présent et que ça fuit un peu de partout. Il n'y a qu'à voir. La pantanona d'hier à l'Assemblée nationale sur le vote concernant la reconduction de l'état d'urgence sanitaire, dans lequel la majorité parlementaire n'a pas réussi à être suffisamment nombreuse pour pouvoir suivre, comme elle suit en règle générale, petit doigt sur la couture du pantalon, les initiatives qu'elles ont, initiatives gouvernementales. Donc voilà, première chose, il me semble qu'aujourd'hui, le pouvoir est en train d'essayer de devoir composer avec une, entre guillemets, alors là aussi, concept nous, société civile, ou du moins les citoyennes et les citoyennes qui renaclent un petit peu là, au modèle républicain français, qui est un peu surprenant quand on voit nos pays proches de l'Union européenne. Deuxième chose, et puis je vais essayer de ne pas être trop long, il ne faudrait pas, et je crains, quand je dis qu'il ne faudrait pas, ça pointe l'oreille d'une crainte que j'ai, que cette incapacité à gérer la situation qu'on peut entendre, tellement la situation est complexe, pour le dire trivialement, je n'aimerais pas être à leur place, hein, aux gens qui prennent les décisions aujourd'hui. Il ne faudrait pas, par contre, par ailleurs, qu'on ait droit à quelques diversions politico-idéologico-suspecte concernant l'insécurité. Je crains que commence à apparaître à l'occasion de faits divers et d'événements, ça ne sont pas que des faits épouvantables, on commence à voir apparaître quand même un discours qui est un discours du plus sécuritaire qu'au moins tu meurs, qui laisse à penser que ça... qui pourrait laisser craindre qu'on joue là-dessus quelque chose de l'ordre du rattrapage de l'incapacité politique entendable qu'il peut y avoir concernant l'épidémie.
Léonore ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Jean-François. C'est-à-dire que moi, je vois qu'il y a un manque de lucidité au niveau de l'état, de l'état d'urgence sanitaire. C'est vrai qu'on n'est pas à leur place, on est d'accord. Mais je sens comment on s'y prend des décisions au fur et à mesure, mais dans l'urgence. Okay. Ces manques de lucidité font qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation compliquée pour le commerce, compliquée au niveau sanitaire. Il est vrai aussi que le pouvoir il se compose avec les décisions qui donnent les scientifiques, avec les nouvelles par rapport aux hôpitaux. Mais aussi, regarder que les scénarios, parfois, je vois comme un scénario collé d'une certaine manière. On a une stratégie de vivre avec le virus, mais de quelle façon? On estime qu'on n'est pas, les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés au niveau de lits, hein, ils n'ont pas assez pour accueillir les gens, faire face à l'épidémie. La question se pose, c'est la manière comment nous, on se comporte en tant que citoyens. Nos commerces, l'économie, en ce moment, c'est grave parce qu'on donne la possibilité à les grandes surfaces d'être ouvertes, mais les petits commerces sont les plus condamnés, on va dire comme ça, à travers de cette urgence sanitaire. Vivre avec le virus, OK, vivre avec, il va falloir qu'on s'adapte. Mais de quelle façon le gouvernement pense, est-ce qu'il y a une aide financière pour, que ça ne couvre pas tout, mais une aide financière pour les gens qui sont des commerces, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, je me pose aussi la question par rapport à ce comportement des commerces, des gens qui sont des commerces, qui sont en train de fermer en ce moment, quelles sont les options qu'on lui donne? Donc, vrai, vivre avec le virus, cette stratégie, elle est compliquée à gérer, mais les scénarios, je le vois assez, assez divers. Il manque de lucidité, on ne sait pas où on va, mais en même temps, sachez que cette deuxième vague, ça va être la plus dure, parce que les gens, ils sortent, ils peuvent aller travailler, pour certains, pour d'autres non. Mais l'économie, la vie sociale, elle reprend, c'est différent, c'est un confinement qui est différent le premier, parce qu'on voit de plus en plus de gens dans la rue, certains qui peuvent sortir. Mais à qui on écoute conseil? À qui on est en train d'écouter un conseil? Parce qu'il y a trop d'informations et on ne sait pas où on va. C'est pour ça que, au début, il manque de lucidité. C'est pour ça qu'on est dans un état assez compliqué au niveau de l'économie, surtout sociale aussi.
Pierre Larouille.
Je ne vais pas répéter alors ce qui vient d'être dit et qui est effectivement le descriptif de la situation qu'on voit tous. Si je résumais en trois mots, je dirais que tout le monde s'entend sur un problème de manque d'anticipation. Je dirais qu'il n'y a pas de voix avec un X et qu'il n'y a pas de voix avec un E. Et que tout ça, ça va être une société complètement atone, déstabilisée. Ce que je crains le plus, c'est qu'en réalité, nous n'en soyons pas. Comme tout petit début de cette déstabilisation. Je crois que la dernière fois, j'ai déjà insisté sur la crise psychologique qu'on commence à voir apparaître dans les débats, alors qu'elle aurait dû être prise depuis très très longtemps en amont, parce que je crois que ça va être extrêmement grave. On a aussi un autre facteur qui est troublant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'apprend rien. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'aujourd'hui, alors qu'on avait dit à un moment donné, vous vous souvenez à l'époque des Gilets jaunes, on a organisé le grand débat, on est allé écouter les citoyens, on est allé écouter les élus locaux. Et là, on recommence, on prend des mesures, parfois d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, on se contredit les uns les autres, enfin, c'est pas très grave. Et les gens qui sont à proximité, qui savent un tout petit peu comment ça se passe, de nouveau ne sont pas consultés. Donc d'un côté, on n'a pas de voix, c'est-à-dire régalienne presque, et de l'autre côté, on n'a pas une sorte de rapport de proximité qui permettrait peut-être un dialogue un peu plus rassurant. Pour m'amuser, je dirais que c'est quand même aussi assez curieux si on cherchait un lien structurel. Ça fait quand même deux fois que la société est en crise sur la question de la mobilité. On l'a été avec les Gilets jaunes. On y retourne maintenant avec la viralité qui nous amène à l'immobilisme et au confinement. Tout ça pour dire que quand nous en parlions au mois de mars, vous vous souvenez des grands débats qui avaient lieu entre les utopistes et les réalistes, est-ce qu'il y aura, comment on construit l'après, etc. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, après, ce n'est pas une option. Parce que l'avenir, quel avenir pour la France, c'est vraiment une question. Parce que là, on est en train d'insister sur des choses de soutien et tout ça, et c'est évidemment important, hein, parce que le problème économique et social est colossal. Mais ça va quand même beaucoup plus loin, et Jean-François le sait bien, il y a toute une problématique d'anticipation des investissements. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une crise très profonde de l'idée que la France va se faire de son avenir. Et donc c'est une crise extraordinaire pour la jeunesse. Donc tout ça, moi je ne sais pas si déjà le socle social va tenir, je n'en suis pas persuadé. Pour pas être long, comme dirait Jean-François, je conclue là-dessus. Je crois qu'à cette heure-ci, personne ne sait où va se positionner le curseur entre la peur, l'anxiété et de l'autre côté, la révolte. Il y aura très probablement le cumul de ces deux tendances et je crains que Jean-François souligne le problème de la crise démocratique. Que ça nous pose quelques soucis majeurs dans les temps à venir, surtout qu'a priori, on voit bien que les élections se mettent à être repoussées et qu'on évoque même qu'il n'y ait plus d'élections avant la présidentielle, si tant est qu'elles puissent avoir lieu. Voilà, j'ai été un peu trop long, j'en suis désolé.
Ah, mais on n'est jamais trop long sur cette question.
Non, Pierre n'est jamais trop long.
Bien, voilà. On a quand même une situation, on est très pessimiste là parce qu'on ne voit pas de solution, on voit des erreurs de communication, on voit un gouvernement manifestement empêtré dans le reconfinement, un déficit public en 2020 qui devrait tutoyer les 11,3% du PIB. Finalement, l'exécutif est sous haute pression, il doit faire face à une triple crise sanitaire, économique et sécuritaire. Il doit faire face à des gens qui ne croient plus vraiment ce qu'on leur dit, où chacun ne voit que ses intérêts, il n'y a plus véritablement une vision globale des intérêts du pays. Comment, Jean-François, comment ça peut se passer? Parce qu'aujourd'hui, on va confiner jusqu'au peut-être 15 décembre, 20 décembre. Le gouvernement va être obligé de relâcher la pression pour les fêtes, parce qu'autrement, ce ne serait pas… Alors, peut-être qu'il y aura des restrictions de circulation, ce qui serait souhaitable, mais après, on risque de reconfiner peut-être dans des conditions différentes, peut-être en fonction des âges aussi, des régions. Comment vous voyez que tout cela puisse s'organiser, Jean-François?
C'est une invitation assassine, celle-là, parce que c'est la question à… Allez, on est en période d'élection américaine, c'est la question à 10 000 dollars, celle-là, hein, c'est-à-dire comment ça… Bon, mais essayons, prenons des risques…
Jean-François, pardon de vous couper, essayons, mais regardons aussi ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays européens notamment, où l'on voit que les difficultés sont à peu près les mêmes, les réponses ne sont pas forcément meilleures ni différentes, et on voit que tout le monde est à la peine, tout le monde s'interroge sur ce qu'il y a lieu de faire, et personne n'a une recette miracle.
Je l'ai évoqué tout à l'heure très rapidement dans ma précédente intervention. Je pense que c'est vrai qu'ailleurs, hein, alors, il ne s'agit pas de dire que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais quand on va voir chez nos amis allemands ou des choses comme ça, ça se fait de manière plus modeste du côté de l'État, de manière un peu plus ouverte, un peu plus démocratique, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas plus efficace. Mais la question de l'efficacité, je ne suis pas sûr que… C'est une aporie, comme on dit. Hein. Ce serait une aporie, ce serait une absurdité de la reprocher aux politiques, hein, le fait de la question de l'inefficacité concernant la question qui est la question, dans le court terme, du traitement de l'épidémie. Tout simplement parce qu'on ne sait pas. Tout simplement parce que ce qu'on sait, c'est que nous payons le prix d'années qui sont des années de choix ultra-libéral quant à la gestion de la santé, donc ça c'est, et que nous payons toute une série de conneries, y compris environnementales, mais dans le court terme, méfions-nous des gens qui ont des solutions, hein, qui ont des réponses à cette question-là, qui est une question que nous n'arrivons même pas à construire aujourd'hui. On sait ce qui nous attaque, on sait de quoi on est victime, mais pas suffisamment pour avoir une compréhension de la manière de le battre. Donc, voilà. Pour aller vite, je pense que ça. Et là, on est en France particulièrement confronté, me semble-t-il, une question, c'est soit l'État républicain vertical. Et on en connaît des représentants à tous les étages, continuent à vouloir faire semblant de commander à la réalité et imposer les choses aux gens. Et ça, c'est notre vieille tradition sur laquelle on est structuré, à la fois les dominants et les dominés, j'ai envie de dire, pour parler comme un sociologue. Soit on va avoir une mutation lente, compliquée, une métamorphose douloureuse de notre manière de fonctionner par rapport à quelque chose comme ça. Pour le dire autrement, concernant l'épidémie, soit on fonctionne en état totalitaire, hein, et nous, citoyens, nous soumettons, hein, alors c'est le Léviathan, quoi, je veux dire, on est dans cette logique-là, soit on évolue vers autre chose. C'est la différence. Et on est un peu orphelin par rapport à ça, parce que les outils de médiation qui nous permettraient de faire ça, on mesure bien aujourd'hui leurs difficultés, que ce soit les partis politiques, que ce soit les syndicats, ou que ce soit les structures dites de la société civile, c'est-à-dire les associations. Et c'est pourtant là-dedans, me semble-t-il, que ça va se jouer. Je vais être un peu caricatural et rapide. Je pense que les prochaines élections qui vont, Pierre, vont être retardées. Mais c'est pas forcément important parce que j'ai envie de dire c'est peut-être pas là que ça va se jouer uniquement. Elles ne seront que éventuellement la traduction d'une évolution sociale que nous aurons connue d'ici là. Parce qu'aujourd'hui, à part imaginer de rentrer, mais c'est pas exclu, hein, dans le totalitaire. Et moi, je ne l'exclus pas. Aujourd'hui, on va être obligé de tout s'inventer, y compris les formes de d'organisations qui nous permettent d'affronter ça. Je ne veux pas faire le prophète. L'épidémie que nous vivons n'est qu'une forme peut-être particulière d'autres formes d'atteintes auxquelles nous risquons d'être confrontés dans les années à venir. C'est pas forcément un accident. Alors, comment la société...
C'est certainement pour moi, et je le dis depuis longtemps à cette antenne, et notamment dans l'émission Résilience, où on parle un peu de l'avenir de la Terre, c'est un tour de chauffe, et il va se passer beaucoup d'autres choses aujourd'hui, nous le savons à présent.
Oui, et que là, aujourd'hui, il est sur notre capacité à nous-mêmes à nous organiser pour affronter ces choses-là, alors pour anticiper le fait qu'on ne les reproduise pas, et y compris pour les affronter.
Léonore, un commentaire ?
Oui, un commentaire parce que je voulais justement parler de l'Allemagne, quand je disais un scénario pour nous contrôler. Hein, parce que ici, moi, je sens personnellement qu'on est plus contrôlé. Et je parle avec des amis en Allemagne en me disant on ne gère pas la situation, elle n'est pas gérée de la même façon. Donc, je reviens à ce que tu viens de dire, vous venez de dire, Jean-François. C'est que l'organisation qu'on nous montre aujourd'hui ici, est-ce que c'est plutôt parce que nos citoyens ne sont pas prêts à obéir, n'obéissent pas, ou c'est un problème de communication? Parce que ici, je sens que à force des papiers, à force de montrer de papiers, de garder le masque, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais moi, je me dis que il va falloir qu'on travaille plus la communication envers les gens, au niveau directement, pour que les gens puissent avoir conscience de ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi en Allemagne il y a moins de contrôles? Et les scénarios qu'on a ici en France, on est contrôlé, on est arrêté. Justement, j'ai vu hier des gens se faire arrêter parce qu'il pour le papier. Donc, on est plus dans un contrôle police. Est-ce qu'il manque plus de communication pour que les gens puissent comprendre et à ce moment-là, on est responsable de nos actes.
Pierre Larouille, un dernier commentaire sur cette question.
Oui, moi, je voudrais revenir à la question initiale, parce qu'en fait, on voit bien qu'il n'y a pas de solution miracle, hein, et tout le monde est convaincu qu'on est quand même devant un petit mur. Mais je crois qu'il n'y a pas plus d'explication aisée de dire « Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas fait ci, fait ça. » Parce que la réalité, aujourd'hui, on dit « Ah, mais il n'y a pas assez de livres, il n'y a pas assez de masques. » Très bien. Mais il y a quelque chose de plus profond, et je crois que vous étiez en train, mais je n'entendais pas très bien, de dire à Jean-François, c'est que en réalité, on est, je le répète, devant une crise de la viralité. La mondialisation et la crise de viralité nous plongent dans diverses sortes de pandémies. Alors, ça peut être des pandémies, effectivement, sanitaires, mais qui peuvent prendre plusieurs formes. Et à chaque fois, on va dire « Ah, moi, on n'a pas prévu ça, et il nous manque ça ». C'est simplement que face à la violence de ces choses-là, on ne peut pas avoir des boucliers sur tout. C'est simplement impossible matériellement. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer sur le fait que parce qu'on a ce type de virus aujourd'hui, on aurait eu la solution si on l'avait fait. Donc je crois qu'il n'y a pas de solution dans le futur, actuellement on n'a pas de solution claire, il n'y a pas de solution dans le passé. Il y a cette analyse qui effectivement pose la question de la résilience de demain et de la mutation qui doit s'opérer de l'après, parce que là on évoque des problèmes sanitaires, mais demain on aura peut-être un problème de cyberattaques qui vont poser des questions monumentales de maîtrise et qui vont toucher et frapper des villes, des pays entiers si c'est possible. Donc, on est vraiment face, en réalité, à quelque chose qu'on a produit. Et vous voyez bien comment, au travers de ça, les populistes font remonter l'idée de la crise de la mondialisation de manière un peu sournoise et parfois un peu simpliste. Mais on est bien quand même dans quelque chose qui nous touche très vite, très fort, tant qu'on puisse tout prévoir et en sachant très bien que ça va se multiplier.
Bien, merci Pierre sur cette question. Je vois que finalement vous allez. Je suis collapsologue, je ne m'en cache pas, mais la collapsologie parle de l'effondrement de civilisation, mais parle aussi d'un après, bien évidemment. Vous finirez un jour par me rejoindre, j'imagine. Alors, sujet numéro 2.
Oh, quelle honte, quelle honte.
Vous verrez. Sujet numéro 2, la France et les attentats islamiques. Alors, nouvelle vague d'attentats a touché la France, attentats islamiques, bien sûr, et puis tout récemment l'Autriche. Assassinats aveugles et sordides qui peuvent toucher n'importe qui, parfois ciblés comme le fut le professeur Samuel Paty, parfois habillé d'un prétexte comme les caricatures de Mahomet, parfois sans en avoir comme chez nos amis autrichiens. Et chaque fois se reposent les sempiternelles questions de la liberté de penser, de s'exprimer, de dessiner. On reparle de la laïcité, de sa définition, des modalités de son exercice. On fustige les islamo-gauchistes, on dira tout à l'heure ce que c'est. On stigmatise la communauté musulmane ou simplement tout ce qui ressemble de près ou de loin à un arabe ou à un méditerranéen. L'influence délétère et pernicieuse des réseaux sociaux est une énième fois pointée du doigt, et à juste titre d'ailleurs. Autrement dit, la politique politicienne reprend le dessus, les solutions expéditives simplistes aux effets illusoires fleurissent, le fonds de commerce de l'extrême droite se renforce, on crie haut et fort son amour pour la police, on glorifie les victimes, instrumentalisées à leur corps défendant par des politicards à la petite semaine, et c'est reparti pour un tour, la machine est bien rodée. N'oublions quand même pas de regarder les réactions à l'extérieur de nos frontières. La Turquie et Erdogan qui, s'affaiblissant dans son propre pays, pays quand même mal en point sur le plan économique et sur le plan de la pandémie Covid, et bien Erdogan qui en profite pour jouer les matamores internationaux et qui a d'ailleurs un certain nombre de soutiens français. S'il ne les a pas maintenant, il les a eus. Hein. Rappelons Mantes-la-Jolie. Le fief de M. Pierre Bédier, qui est le président LR du conseil départemental des Yvelines et qui lui a passablement dans ce département servi la soupe. Je vous renvoie à l'excellent article de l'excellent Canard Enchaîné de la semaine dernière. Les pays de confession musulmane conspient notre président et nos valeurs qu'ils sont à mille lieues de connaître ou de pouvoir intégrer, donc deux mondes séparés par un abysse. Sur cette question, Jean-François Millard, qui peut-être peut nous définir ce que c'est que l'islamo-gauchisme.
C'est la définition de l'islamo-gauchisme, à part imaginer que dans la tête de certains, je fasse partie de cette famille détestable, qui serait effectivement le fait que les gens qui sont gauchistes, hein, c'est-à-dire, j'ai connu à une époque les hitléro-trotskistes, les gauchistes marcelins, bon, c'est une variante d'un gauchisme, c'est-à-dire, vous savez, les post-68ards, les chevelus qui, selon Luc Ferry, ont fait effondrer notre civilisation qui était extrêmement harmonieuse et dont on se souvient avec tendresse, tellement tout le monde était heureux à l'intérieur. Voilà, se sont alliés de fait par faiblesse, par manque de comment dire, d'attributs sexuels suffisamment forts avec... un islamisme qui serait un islamisme qui serait une hydre qui menacerait toutes nos sociétés, voilà. Et donc ces gens-là seraient à identifier, ils seraient à dénoncer, éventuellement ils seraient exécutés, autrement dit l'heure des piloris, des bûchers, rayer les mentions inutiles est revenue. Voilà, tout ça est assez tout ça est à la fois assez dérisoire, pantalonesque, puisque on a l'impression que des gens règlent leur compte au regard d'une situation qu'ils sont incapables incapables d'analyser. Et aujourd'hui, effectivement, ne pas être dans la violence. Et de foncer tête baissée, de mon point de vue, dans le piège qui nous est ouvert par les gens qui nous attaquent, hein, c'est-à-dire qui nous attaquent à plusieurs niveaux. L'islamisme qui existe, l'islamisme politique hard avec ses variantes terroristes, c'est une réalité, nous tendent un piège qui est un piège qui serait de dire partons en guerre de civilisation. On connaît toute la thématique de la guerre de civilisation et le plus fort gagnera. et le plus fort gagnera. Et tous les gens qui sont pas dans cette, qui ne veulent pas se faire enrober dans cette guerre, sont des gens qui sont susceptibles d'être des municois, des idiots utiles. Là aussi, quand on a quelques références historiques, où ça fait appel à des tas de choses qui fait que voilà, on est sommé d'une certaine manière de choisir son camp. Alors, jusqu'à présent, on avait l'extrême droite qui faisait ça. On avait quelques personnes dont on imaginait qu'elles avaient pu dire à une époque, même si on ne croyait pas trop qu'elles étaient de gauche, et qui... Il y a des tribunes, il y a des gens comme ça qui font ce genre de trucs. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui le dit, et qui, d'ailleurs, stigmatise ce faisant une bonne partie d'un certain nombre d'universitaires qui sont des personnes dont on pourrait imaginer qu'ils ont un minimum de réflexion là-dessus. Ce sont des journalistes qui ont table ouverte et ce sont pas mal de gens effectivement qui se lâchent là-dessus. Il va falloir, me semble-t-il, arrêter de se faire peur de rentrer dans le jeu qui est le jeu de la haine réciproque et de retrouver un petit peu nos principes et nos valeurs. Bien sûr qu'on est confronté à des choses qui sont des choses épouvantables, qu'il va falloir combattre de manière intelligente avec nos armes. C'est quoi? C'est justement ça, c'est l'intelligence, c'est la démocratie, c'est les valeurs de liberté, c'est les valeurs de dialogue, etc., etc. Sinon, nous risquons de devenir ce que nous nous attachons à combattre, c'est-à-dire effectivement une société qui se ferme, qui porte atteinte à nos libertés et qui perd effectivement le sens qui est le sens qui fait que nous sommes ensemble, à la différence des gens qui nous sommes en face. Voilà. Il me semble qu'il faut qu'on revienne à des choses un peu plus raisonnables, un peu plus réfléchies, un peu plus intelligentes, un peu plus empathiques aussi, un peu plus dans la fraternité, sans être dans l'angélisme. Même la fraternité, c'est pas forcément être faible. Ouais. On peut être très fort en étant fraternel. La combativité neuve n'est qu'un signe qui est un signe de faiblesse. Tout ça, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse, et les uns et les autres, de manière à ce qu'on puisse faire front. Oui, à la fois faire front et refaire société. Le risque étant que nous nous déchirions au bénéfice des gens, effectivement, qui sont les entrepreneurs de haine. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ça, c'est un peu des grands mots, je peux y compris l'illustrer par des choses concrètes, mais voilà, de manière générale, ma réaction à la question.
Sur cette question, Léonore.
Oui, alors concernant la situation entre la France et la Turquie, et par rapport au monde musulman, c'est vrai que c'est compliqué de parler des religions, c'est compliqué parce que la liberté d'expression, elle va jusqu'où? Je fais référence à un tweet qui a fait le premier ministre canadien en disant, oui, la liberté d'expression, mais il faut respecter les communautés. Donc, jusqu'où? Donc, il faut garder un langage qui nous permet d'être libre, mais en même temps d'être intelligent dans la démocratie, les valeurs de liberté. Mais certains mots, je crois qu'il va falloir qu'on fasse attention. Parce que si ça touche une communauté, si ça touche la religion, si ça touche, à certains sujets qui sont, on va dire, sensibles, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on pèse le mot pour comprendre que ça touche mon voisin, ça touche une personne et que la personne peut réagir de façon violente. Et moi, je crois que des tensions diplomatiques, à cause de ça, on vit aujourd'hui une tension diplomatique entre la France et la Turquie, également vers le monde musulman, dans lesquels il y a un boycott par rapport aux produits français. On voit aussi de la manière comment Erdogan y joue. Moi, je vois très clair un jour. Et il est en train de jouer avec ses fibres nationalistes, c'est-à-dire qu'il a l'espoir de toucher le monde musulman et reconquérir un électorat musulman en disant, voilà, il faut que vous fassiez attention par rapport à la France. Et ça crée des tensions diplomatiques, des tensions dans lesquelles on ne sait pas où ça va très loin. Parce que si c'est en France même, on vit un moment dans l'éducation qui est compliqué, hein, comment il faut parler aux élèves, comment il faut enseigner des sujets qui sont sensibles, jusqu'où on a la liberté de parler de la religion, par exemple. En même temps, refaire la société, je reprends votre phrase, Jean-François, refaire la société, oui, on est en train, justement, on est en train de changer tout ce qu'on vit en ce moment, c'est un changement, hein, notre façon de travailler, notre façon de vivre. Mais les gens, est-ce que les gens sont conscients qu'on vit des tensions, pas simplement diplomatiques entre deux pays, mais des tensions au niveau social? On ne sait pas comment faire en tant qu'enseignante, par exemple, on ne sait pas comment aborder certains sujets maintenant parce qu'on a peur. Et là, on va dans des tensions plus loin, c'est-à-dire dans notre société. Et moi, je vois que ces tensions qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi dans le monde musulman contre nos citoyens français aussi, en disant où on va. Mais où on va dans cette pensée de comment on va devoir enseigner maintenant, comment on va devoir aborder des sujets sensibles pour ne pas avoir peur.
Merci, Pierre Larouille.
Tout ça. Déjà, j'ai l'avantage, comme je n'ai pas bien entendu Jean-François, ça me permet de ne pas répondre sur l'islamo-gauchisme.
J'aurais été intéressé, au demeurant.
Oui, nous en parlerons quand je t'entendrai mieux, Jean-François.
D'accord.
J'ai envie de me poser des questions stupides. Là, on rentre dans une logique, hein, des guerres de religion, pratiquement, des affrontements, tout ça. Mais enfin, ouais. Les gens pas très jeunes, comme Jean-François et moi...
Alors, ne vous faites pas du mal.
Pas très vieux non plus.
On assiste quand même à un extraordinaire combat dans le hit parade des grandes idées, un grand retour des religions. Nous n'avons pas débuté notre carrière sociale et politique avec des tels et partout. On peut se poser la question quand même, alors je ne conteste absolument pas que des gens veuillent adhérer à une religion. C'est simplement la forme que ça prend aujourd'hui qui nous invite quand même à nous poser un certain nombre de questions. La deuxième question qui vient avec, c'est, en même temps que se poser des questions, on voit partout se poser des questions d'identité et d'identification. En même temps qu'on nous dit ça, on dit, il m'a semblé entendre dans la conversation précédente, on nous attaque. Oui, certes, on nous attaque, mais on voit bien aussi qu'on a un problème de fond, qui est que quand on interroge l'opinion, elle devient de plus en plus friable sur tous ces sujets. Oui. Bref, ensuite on dit, ah oui, il y a des grands responsables, c'est les réseaux sociaux. Enfin, on a là, les réseaux sociaux, le problème que ça pose, c'est qu'il est prise de l'échange. Vous voyez bien, si on regarde CNews ou des choses comme ça, qu'on a inventé une Fox à la française, qui ne fonctionne... Oui. C'est déjà le cas dans des émissions comme Cherokee et tout ça, on ne fonctionne que sur le fait de la provocation. Il ne s'agit plus de dialoguer.
Oui.
Donc, on a quand même, de manière générale, une société, et en particulier les nôtres, et c'est troublant parce qu'on est quand même justement les héritiers des Lumières, on est dans des sociétés où on a complètement désagrégé ce qui nous fondait. C'est-à-dire que quand on parle trop vite, à mon avis, de république, de trucs et de machins, vous vous rendez compte quand. Mais ça ne mord pas du tout. Les gens sont très loin de ça. Ils sont sur des questions extrêmement basiques. On nous attaque, alors on va tout faire, on va tirer. On sent qu'il n'y a pas de fond. Il y a une vraie crise des repères, et pour faire plaisir à Jean-François, il y a une grande crise idéologique. Alors, je ne vais pas ici ressortir l'ensemble de mes dadas, mais je crois que tant qu'on ne se reposera pas ces questions, toutes les réponses, et qui sont les bonnes, parce qu'évidemment, nos valeurs, nos choses, etc., c'est très fort. Je pense que c'est trop distancié. Il faut reprendre le problème à la base, et déjà de nommer qu'est-ce qui fait que ça se désagrège à cette vitesse-là et avec cette force-là. Je vous rappelle quand même qu'il y a, même pas au siècle, ça fait 50 ans, on partait dans les brigades internationales. Aujourd'hui, on part en Syrie faire le djihad. On peut pas le nier, il y a des centaines et peut-être des milliers de jeunes qui sont attirés par ça. Mais en fait, incroyable, parce que simplement on est extrêmement fragile sur nos bases. Donc il est important qu'on reprenne effectivement la question de nos repères. Alors je suis d'accord avec Jean-François, de ce qui fait société. Il faut sans doute que l'éducation, il faut peut-être des nouveaux histoires noires pour réapprendre que le dialogue, sans doute, ça s'apprend et c'est nécessaire.
Merci Père Larouille. Donc, troisième sujet que nous allons survoler brièvement, d'abord parce que le temps va nous manquer, ensuite parce que nous n'avons pas véritablement de choses à dire, de nouveautés, de news, ce sont les résultats des élections présidentielles américaines, comme le disent les gazetiers. Alors nous mettons sous presse, rien n'est joué. Ce pays qui fut un phare de la démocratie s'en éloigne tous les jours un peu plus et dégage même un parfum de guerre civile larvée. Ne nous y trompons pas, Trump n'est pas arrivé au pouvoir par hasard, ça rejoint un peu le propos de Pierre Larouille. Ce pays comme d'autres a beaucoup changé et nous devrions rapidement tirer les leçons de cette évolution. Une éventuelle victoire de Biden qui n'est pas gagnée à l'heure où l'on parle permettrait de revenir à une politique certes plus apaisée, moins clivante, multilatéraliste, mais attention, le pays s'est quand même profondément transformé. Biden n'est pas Clinton, et si Trump venait à disparaître de la scène, le trumpisme, lui, par contre, sera toujours bien présent. Pierre Larouille, sur cette question, une phrase ou deux ?
Une phrase ou deux, oui, je crois qu'en tout cas, et ça peut donner peut-être des conseils aux futurs candidats en France à la présidentielle, c'est que de toute façon, c'est le désir qui tire le plus des électeurs. Et quand on se contente de prendre une position défensive et de rejet de l'autre, au bout d'un moment, ça ne suffit pas, on ne fédère pas. Et ça, c'est la grande force du populisme, c'est d'arriver à faire croire à des gens qu'il y a quelque chose qui les rassemble. Alors qu'en fait, ils se rassemblent très souvent sur des idées extrêmement diverses, mais qui sont récupérées. Et de ce point de vue, Trump le fait très bien, mais il arrive du coup à avoir un corpus. Derrière lui, électoral, qui est extrêmement solide et qui fonctionne sur le désir.
Léonore ?
Alors, la situation des États-Unis en ces moments, c'est tendu parce qu'ils sont dans l'attente, mais c'est vrai que si Biden il prend les élections, il gagne les élections, ça va répercuter aussi au niveau de la migration. Parce que s'il y avait des gens qui avaient peur, surtout sur la question du mur, je pense aux Mexicains, parce que hier j'étais dans une conférence sur le sujet, et c'est des élections présidentielles qui vont être très contestées. Les Américains sont dans une attente d'un changement, surtout en ce moment, par rapport à l'économie. Il y a des gens qui perdent leur emploi, et surtout faire face à la crise sanitaire, parce que s'il y a des problèmes qu'il y a aux États-Unis, c'est la santé, le système sanitaire. Moi, je crois que ces décisions, on va les voir plus réellement demain. On va connaître les élections, le résultat comme il faut demain. Mais entre-temps, je pense que le discours, il se tient par rapport à la santé, le niveau sanitaire, à les relations internationales aussi. Je crois que Biden, il va avoir un langage plus doux. Hein. Ça va peut-être pas si brusque que Trump. Mais on va voir la façon comment les gens ils vont contester, parce que Trump il sera là, même s'il va pas remporter les élections, il va confronter à Biden dans son gouvernement.
Jean-François.
Oui, pas grand-chose à dire, d'abord parce qu'on est effectivement dans l'événement, et puis parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui se passe aux États-Unis vient un peu en écho des bouts d'échange qu'on vient d'avoir sur la question de la montée. Pierre tout à l'heure disait que nous étions notre génération, hein, pas si vieux que ça, mais pas si jeune non plus. Hein, nous étions sur d'autres enjeux, sur d'autres combats et sur une idée qui était une idée que, de toute façon, on avait quelques acquis, quelques fondamentaux que nous partagions. Ce qui se passe aux États-Unis montre bien que tout ça est en train d'être balayé et que la métamorphose, j'évoquais tout à l'heure l'idée de métamorphose, je ne suis pas sûr que ça en soit une, c'est-à-dire que la métamorphose, c'est quand on change de forme, mais qu'on est le même, je ne suis pas sûr qu'on sera les mêmes. mais que la confrontation est vraiment sur un certain nombre de valeurs et qu'elle est violente. C'est ce qui se passe aux États-Unis.
Merci Jean-François. Alors l'heure a sonné de nos dernières rubriques. Je vais ouvrir celle des brèves. Je ne sais pas comment il faut prendre cette information, c'est quand même un peu nouveau. 2 ans de prison ferme pour 2 policiers qui avaient frappé un adolescent à Marseille. Quand on dit frappé, il l'avait carrément passé à tabac. Assorti d'une interdiction définitive d'exercer leur métier. Bon, c'était une agression raciste avec les propos qui allaient avec. Bien sûr, ça jette l'opprobre sur la police nationale et peut-être ça va inciter certains qui ont du mal à se retenir à avoir une conception plus éthique et républicaine de leur métier. Léonore, une brève.
Une brève à Toulouse. Le mois dernier, il y a eu un adolescent de 16 ans qui a été violent envers son professeur à Toulouse. Donc, ça, c'était pas très dur. Mais moi, je reviens à la question de l'éducation, de la façon comme nos jeunes sont en train de prendre certains sujets, parce que la violence envers les professeurs, ça, c'est inadmissible.
Jean-François, une brève, très brève.
Très vite, s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale l'examen de la loi sur la sécurité globale. Alors méfiez-vous, parce que quand on parle de sécurité globale, ça craint un peu. C'est-à-dire que vraiment tout est vu de l'ordre du côté de la sécurité. Au passage, pêle-mêle, dérégulation des caméras mobiles utilisées par les policiers. Légalisation de la surveillance par drone, interdiction de l'utilisation d'images de la police après une action. Bref, je pense qu'il va falloir être particulièrement vigilant parce que là, pour le coup, du côté des libertés, ça craint.
Pierre Larouille, une brève.
Pour le coup, je vais être bref et vu l'endroit où je suis, la montagne est très belle et les sables arrivent, donc c'est parfait.
Bon, c'est déjà
Il faut garder.
Alors, ça va mieux. C'est compliqué de dire ce qui va mieux par l'époque actuelle. Moi, je vais. La politique est quand même la grande perdante. Pas la politique, pardon, la culture est la grande perdante de la politique du gouvernement. Mais elle vit toujours. Alors, il faut en parler un peu. Donc, moi, je vais vous dire en un mot le prix Fémina, le seul prix qui sera décerné, qui va à Serge Joncourt pour son roman Nature humaine. Une saga paysanne amoureuse et engagée qui retrace les mutations des 30 dernières années avant l'an 2000 du point de vue d'une famille d'éleveurs et qui se situe, demandez où ça, dans le Lot. Donc, vous pouvez comprendre que j'y suis particulièrement sensible. Léonore.
Bien entendu.
Léonore. Alors, je vais passer la parole. Je n'ai pas de bonnes news par rapport à la France, mais… Alors, peut-être que Jean-François
Miller. Oui, alors j'en prends deux, moi. Tiens, j'en profite, j'en ai deux, ça va mieux. Mais pour ça, il faut aller à l'étranger. J'en ai un en Algérie. Le Hirat continue de manière pacifique. Les Algériennes, pour le coup, là, nous donnent une petite leçon. Le référendum de la Constitution qui est passé avec un oui à 66% n'a mobilisé que 37% d'électeurs. Ce qui veut dire que le peuple algérien continue à maintenir la pression sur un État qui est un État parfaitement pas démocratique, et je trouve que c'est bien. Et la deuxième des choses, ça va mieux parce qu'en Pologne, les femmes, et oui aussi les hommes à qui les accompagnent, se battent pour défendre des libertés fondamentales, notamment concernant la loi sur l'avortement.
Ils se battent et on voit, quand on voit les images, ce sont des marées humaines qui sont quand même dans la rue.
Exactement. Et cette dimension pacifique, je trouve, est particulièrement importante, qu'on a intérêt à prendre des leçons là-dessus.
Pierre Larouille, ça va mieux?
Oui, Michel évoquait pas mal la crise psychologique. Sans en connaître les détails, j'ai entendu l'intervention du département de la Haute-Garonne qui crée une sorte de cellule d'accompagnement psychologique. Et je crois que ça va être très, très dans les temps prochains, pour toutes les générations avec le chômage, mais aussi avec les jeunes et ce qu'on voit monter, des crises d'anxiété extrêmement fortes. Donc je trouve que c'est une bonne initiative des acteurs de terrain, j'avais envie de le dire.
Merci Pierre. Léonore.
Oui, en profitant que Pierre Larouille nous a donné des news par rapport à des partages psychologiques, des gens qui ont des besoins. Il y a un service pour les étudiants en anglais, en espagnol, en français. Pour tous ces gens qui cherchent des soutiens psychologiques, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. qu'ils ont mis en place pour aider surtout les étudiants étrangers qui sont loin de leur famille.
Merci. Dernière rubrique, la rubrique, le conseil entre guillemets culturel. Alors moi, ce sera un livre, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers le livre. Le dernier d'Edgar Morin avec la collaboration de Saba Abouessalam, « Changeons de voie, les leçons du coronavirus ». Chez De Noël, vous connaissez Edgar Morin, hein, déjà un monsieur très âgé, né en 1921, sociologue, philosophe, CNRS, etc. Et il nous parle de ce minuscule virus né dans une très lointaine ville de Chine et qui a déclenché le bouleversement du monde. Il nous dit, il y a là un électrochoc, va-t-il être suffisant pour faire prendre enfin conscience à tous les humains d'une communauté de destin et va-t-on pouvoir ralentir notre course effrénée au développement technique et économique. Donc un livre qui, vous l'imaginez, a particulièrement retenu mon attention. Jean-François Mignard.
Oui, très vite. Moi, je n'ai pas de choses à proposer, juste de dire aller chez les libraires, acheter des livres, boycotter la grande maison internationale qui a le nom d'un fleuve d'Amérique du Sud. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez acheter chez les libraires chez vous. Vous cliquez, vous allez sur Internet. Et puis ensuite, vous allez chercher le livre que vous avez commandé. Vous pouvez vous cocher une case dans votre attestation qui vous surveille. Comme ça, hein, achetez des livres et soyez solidaires de tout ce qui est le monde culturel qui aujourd'hui est beaucoup à la peine.
On est tous d'accord, Léonore ?
Alors, un conseil culturel. Normalement, ça devait se passer le 27 novembre à la Cité de l'Espace. C'est par rapport à l'intelligence artificielle. Mais on attend le programme par des activités en ligne, donc ce qui s'allait se passer le 27 novembre, c'est très intéressant, plusieurs sujets par rapport à la science, mais surtout l'intelligence artificielle, donc si vous êtes la semaine de la science.
Merci Pierre, le mot de la fin.
Deux bandes dessinées, une qui est là, c'est suite à ce que l'on vient de débattre, qui s'appelle Les enfants du quartier du Bataclan, un travail qui a été fait à partir des dessins des enfants et des réseaux de psychologues du quartier. C'est passionnant, très riche. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de conseiller celle de François Hollande de l'État, qui donne des éléments par rapport à tout ça et le retour du régalien qui me paraissent intéressants.
Eh bien, on ira peut-être lire François Hollande. Hein, le pape émet des bulles. François Hollande fait des bulles aussi dans les BD. C'est extraordinaire. Merci à tous. C'était un peu compliqué au point de vue son. J'espère que le résultat permettra quand même que nous soyons audibles. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec les complices habituels Jean-François Mignard, Léonore Victoria et Pierre Larouille. La réalisation et le montage sera effectué par Maëva Mercadal et Yanis Boudin que je remercie. Et vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie, sur les réseaux sociaux où nous le diffuserons largement. Eh bien, nous restons droit debout, résistants face à cette crise et nous continuerons, essayerons de continuer ces émissions très prochainement, vraisemblablement le mercredi en 15. Merci de votre fidélité. Belle soirée à toutes et à tous. Au revoir.
Au revoir.